France Culture.
Si la guerre commerciale fait plus que jamais rage, les conflits armés restent une source d'inquiétude majeure pour toutes les nations. L'heure est définitivement à la déstabilisation. Face à une telle incertitude, l'idée de dissuader son voisin d'entreprendre une action trop belliqueuse, mais aussi de protéger ses intérêts, prend de l'ampleur. En attestent les récents appels à réarmer l'Europe de la part de la présidente de la Commission européenne et la mobilisation budgétaire de nombreux États européens vis-à-vis de leur défense. Vendredi 14 mars, Emmanuel Macron a reçu dans ce contexte les patrons d'Airbus, Dassault Aviation, Thales, Safran, Ariane Group, mais aussi celui de Naval Group. Or, ce groupe, héritier des arsenaux français, gère un secteur industriel bien particulier depuis son site de Cherbourg, celui de la construction des sous-marins français, dont les fameux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, modèle d'une industrie souveraine, fruit d'une volonté à la fois étatique, mais aussi d'une organisation qui requiert des compétences de pointe dans le secteur industriel. C'est un véritable marché qu'alimentent les chantiers de Cherbourg et un marché qui se porte plutôt bien en ce contexte de tension, puisqu'il devrait passer d'une valeur de 30 milliards de dollars en 2023 à 45,6 milliards de dollars en 2033. Dans le Cotentin, à Cherbourg, à partir des années 70, ce qui fut qualifié d'industrie de la mort par le journaliste local François Simon prend consistance. C'est là donc que sont assemblés les sous-marins français dans la plus grande rade artificielle d'Europe. Et là, de fait, que s'incarne une certaine vision de l'économie de guerre. Retour donc aujourd'hui sur l'histoire de cette ville au rythme des stratégies militaires et industrielles dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Marie-Claire Oumabadi. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Amiral Jean-Louis Lozier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous avez vous-même commandé un sous-marin nucléaire d'attaque d'émeraude entre 1997 et 1999 et également deux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins entre 2004 et 2006. Vous avez également été chef de la division des forces nucléaires à l'état-major des armées. Également avec nous, Vincent Groiselot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Mer et Marine, un média spécialisé dans l'actualité maritime, et vous êtes avec nous depuis les studios d'ICI à Nantes grâce à Olivier Ferroux qui assure ce duplex, et je l'en remercie chaleureusement. Vincent Groiselot, Cherbourg en Cotentin d'ailleurs, compte un peu moins de 80 000 habitants. Sa caractéristique principale, dans le sens où c'est celle qui va beaucoup nous occuper aujourd'hui dans cette émission, est d'être située sur les côtes de la Manche, à 120 km des côtes anglaises, et de disposer, je le disais, de la plus grande rade artificielle d'Europe et la deuxième au monde après celle de Ras Laffan au Qatar. C'est donc une ville, je n'ai pas besoin de le dire, mais c'est donc une ville éminemment portuaire. Dans quelle mesure peut-on dire que son activité économique dépend justement de ses ports? Est-ce là l'essentiel de l'activité économique?
Cherbourg, c'est une ville, un port qui s'est construit justement autour de son activité maritime, autour de sa construction navale, autour de sa marine. Alors, en dehors de la partie militaire, le port de Cherbourg a jamais été un très grand port de commerce, ne serait-ce que par l'histoire. Comprenez qu'effectivement, les Anglais étaient juste de l'autre côté de la Manche à côté. La domination navale anglaise étant, comment dire, imposée depuis très longtemps, c'est pas un port de commerce qui historiquement a pu se développer beaucoup. Il s'est essentiellement développé donc avec l'activité militaire et la construction navale pour les bateaux à l'époque de la Royale et ensuite de la Marine nationale. Néanmoins, il y a quand même effectivement une activité commerciale. Donc c'est un port de commerce, Cherbourg, et aujourd'hui vous avez notamment le trafic transmanche, qui depuis longtemps est très actif, parce que le Cotentin étant avancé dans la Manche, étant près des côtes, c'était un désavantage quand il y avait des conflits avec les Britanniques, mais aujourd'hui c'est un avantage évidemment pour aller faire des lignes maritimes qui transportent donc du tourisme mais aussi beaucoup de fret, hein, donc des ferries entre Cherbourg et l'Angleterre, entre Cherbourg et l'Irlande. Donc ça effectivement on a un gros trafic là-dessus, et puis également vous avez du trafic de commerce un peu classique, du vrac, des marchandises diverses. Et depuis quelques années, il y a une grosse activité qui se développe sur l'éolien en mer. Parce que, comme d'autres ports français, le développement des premiers champs, et qui sont amenés à se multiplier dans les années qui viennent, draine énormément d'activités logistiques. Donc, il faut en fait acheminer dans des ce qu'on appelle des hubs logistiques pour les énergies marines, les composants des éoliennes, les pales, les turbines, les sections de mât. Tout ça est amené donc dans un port, en l'occurrence Cherbourg, pour les champs qui sont construits sur la partie Manche. Et ensuite, ils sont préassemblés et stockés dans l'attente de leur embarquement sur des navires qui vont les installer en mer. Et ça, ça fait des centaines de colis par an, donc une activité aussi commerciale intéressante pour le port. Voilà. Mais effectivement, le commerce est assez limité. On n'est pas au port de Marseille, on n'est pas au port du Havre.
Le Havre qui n'est pas si loin que cela, un peu plus de 120 km, je crois. C'est vrai que ça fait une concurrence assez sérieuse.
Oui, on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées, une concurrence très sérieuse. En plus, aujourd'hui, le Havre fonctionne plus qu'en coopération, puisque les ports ont été finalement fusionnés, le port du Havre, le port de Rouen et le port de Paris, qui en fait le premier complexe portuaire français et un des premiers européens.
Et de la même façon que le port de Cherbourg a lui-même fusionné avec les ports de Caen, Ouistreham et de Dieppe au sein de ports de Normandie. Donc on voit qu'effectivement, il y a une sorte de concentration. Vincent Groiselot, vous avez commencé à évoquer les activités très concrètes. Vous parliez du vrac notamment. Alors pour celles et ceux qui ne seraient jamais allés à Cherbourg, très concrètement, d'un point de vue très spatial, on va dire, comment s'organisent ces différentes activités? Alors même si c'est moindre, celle du commerce, celle de la pêche aussi, de la plaisance et de croisière avec le militaire, j'ai dit que c'était la plus grande rade d'Europe, mais très concrètement, est-ce que tout ce monde-là se partage l'espace en étant voisin, ou est-ce que c'est des activités qui sont très éloignées les unes des autres ?
Non, alors historiquement, effectivement. Alors d'abord, plus grande rade d'Europe, parce qu'en fait, à l'origine, précisément, ces digues, cette rade protégée, elle a été faite pour protéger les bateaux français des attaques britanniques. Déjà, petit point d'histoire. Mmh. Alors, spatialement parlant, oui, effectivement, les activités sont séparées, ce qui est assez normal, particulièrement à Cherbourg, où la construction de sous-marins nucléaires, notamment lanceurs d'engins, est une activité hautement stratégique, hautement secrète. Donc, elle est faite par Naval Group dans une emprise qui est complètement protégée et donc où on ne peut pas circuler. Voilà, et qui est à côté, attenant à la base navale. Autrefois, les deux étaient ensemble, hein, puisque jusqu'en 2003, Naval Group était l'ancienne direction des constructions navales, c'est-à-dire une direction du ministère de la Défense. Et ensuite, ça a été transformé en société de droit privé. Puis ensuite, Thalès est rentré au capital. Et aujourd'hui, c'est une société à capital majoritairement État, avec Thalès également comme actionnaire à un peu plus de 30%, et qui fonctionne comme une société classique, et donc qui est séparée de la Marine nationale. Voilà. Donc, séparée activité militaire et commerciale. Donc, le port de commerce est dans une autre partie de la rade, avec ses activités qui lui sont propres, avec le terminal Transmanche, donc pour les ferries, avec la gare maritime, l'ancienne gare maritime transatlantique, parce que dans l'histoire, Cherbourg a été aussi un grand port d'embarquement de paquebots transatlantiques pour aller aux États-Unis,
le Titanic. Oui, c'est, voilà. Je suis contente que vous racontiez cette anecdote, mais effectivement, il y est passé.
Voilà. Exactement, il n'y est pas passé longtemps, mais effectivement, il y a fait un saut avant son naufrage malheureux. Voilà, donc il y a eu cette activité-là. Aujourd'hui, c'est de la croisière, hein, on est à peu près 150 escales, un peu plus par an, de bateaux de croisière qui viennent. Donc là, c'est purement du tourisme. On ne parle plus de traverser l'Atlantique sur les vieux liners d'antan qui avaient connu leur heure de gloire parce que c'était le bateau, le seul moyen de rejoindre les deux continents. Et donc, ces bateaux assurent à la fois du transport de passagers et un petit peu de fret à bord en complément des cargos. Voilà. Donc, vous avez effectivement ce port de commerce, donc qui est port de Normandie aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a plusieurs ports normands maintenant qui sont associés, qui ont une gestion concentrée. Et donc, vous avez une partie qui est effectivement pour le ferry, une partie qui est pour le vrac, c'est-à-dire des marchandises diverses, et une partie avec un grand terre-plein qui est dédié à l'accueil des éléments d'éoliennes. Ceux qui proviennent d'autres ports, par exemple le Havre qui fabrique des turbines et des pales, et puis vous avez également une usine locale qui fabrique des pales d'éoliennes. Donc c'est le seul site en France comme ça, des pales pour des éoliennes marines, voilà, donc qui s'est développé à la pointe du Cotentin. Donc vous voyez, une activité industrielle quand même. Vous parliez de la pêche tout à l'heure, bien évidemment en Normandie elle est importante, même si comme en Bretagne et ailleurs elle a beaucoup souffert suite au Brexit. Voilà, mais elle est encore là, donc c'est une activité qui n'est pas immense en termes de tonnage par rapport à d'autres ports, mais qui est très diversifié et donc qui conjugue beaucoup d'activités différentes et beaucoup de métiers différents.
Oui, je crois qu'on parle d'environ 5000 tonnes de poissons par an et 50 navires de pêche côtière. Donc voilà, c'est effectivement à relativiser. On a bien compris que finalement l'emplacement même, la géographie était plutôt à l'avantage de Cherbourg d'un point de vue commercial dans un premier temps, mais aussi très rapidement militaire. On l'a dit à l'instant avec Vincent Groiselot, c'est une proximité avec les côtes anglaises qui justifie aussi cet emplacement. Très concrètement, amiral Jean-Louis Lozier, dans quelle mesure Cherbourg était un endroit à tout indiquer pour aussi développer développer sa partie plus militaire, on va dire. Est-ce que, d'un point de vue, encore une fois, très, très militaire, être tout au bout de la pointe du Cotentin représente un avantage stratégique ?
Comme l'a dit Vincent Groiselot, effectivement, au départ, l'avantage stratégique était vis-à-vis du Royaume-Uni. Hein, et c'est bien pour ça que Louis XVI avait décidé d'en faire un port militaire. Mais le temps de construction de la digue a été extrêmement long. Hein. Et finalement, le port est devenu vraiment opérationnel, finalement, sous le Second Empire, hein, sous Napoléon III, à un moment donné, à un moment où on était finalement, globalement, plutôt allié avec la Grande-Bretagne. Ce qui fait que, de ce point de vue-là, ce rôle de port de guerre n'a pas été la majeure partie du rôle de Cherbourg. Et je crois qu'aujourd'hui, l'apport essentiel du port de Cherbourg, c'est effectivement d'héberger un site de construction de sous-marins nucléaires.
C'est donc là la principale spécificité aussi de Cherbourg, en plus de toutes les activités qu'on vient d'évoquer. Et c'est là où il faut le dire, Vincent Groiselot, toutes les activités qu'on vient d'évoquer, d'autres ports le font, les font et les exercent également, et peut-être dans une mesure un peu plus importante. En revanche, cette fameuse fabrication, ce fameux assemblage de sous-marins, c'est une spécificité de Cherbourg. Est-ce que vraiment Cherbourg n'a aucune autre concurrence en France, en tout cas en termes de sites d'assemblage? Tous les sous-marins français sont bel et bien assemblés à Cherbourg.
Oui, aujourd'hui, tous les sous-marins français sont assemblés à Cherbourg, ce qui n'a pas toujours été le cas. On a tendance un petit peu à l'oublier aujourd'hui, mais il y a encore quelques décennies, il y avait un certain nombre de ports, de chantiers navals qui construisaient des sous-marins. Je vous parle de Nantes, et bien à quelques centaines de mètres d'ici. Il y a eu des sous-marins jusque dans les années 70 qui ont été réalisés, notamment pour l'export, des sous-marins classiques à propulsion diesel. Mais vous en avez aussi eu au Havre, à Lorient, à Brest, à Bordeaux. Il y a eu quasiment chaque port, en fait, avait une capacité à un moment ou à un autre de faire un sous-marin, même dans les terres, puisque c'est des bateaux qui n'étaient pas très très gros à l'époque, donc on pouvait potentiellement faire passer par des fleuves pour des chantiers navals qui étaient plutôt donc pas proches de la mer, mais rentrés dans les terres, mais avec un cours d'eau suffisamment important pour pouvoir les transférer. Voilà. Et puis, disons que la guerre, les conflits passant, les flottes se réduisant, eh bien progressivement, effectivement, tout s'est concentré à Cherbourg, qui a une activité historique en matière de sous-marins. Les premiers ont été construits à la fin du 19e siècle. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est le seul qui a cette compétence-là en France. Et en termes de sous-marins nucléaires, c'est un des deux seuls en Europe, puisque je vous rappelle qu'effectivement, il n'y a que la France et le Royaume-Uni qui disposent aujourd'hui en Europe de sous-marins à propulsion nucléaire.
Si je vous comprends bien, Vincent Groiselot, on peut parler d'une forme de spécialisation des arsenaux français, là où Brest et Lorient sont plutôt chargés de la construction de grands navires. Cherbourg sont vraiment les sous-marins. Est-ce que c'est vraiment cela qui a été décidé, une forme de rationalisation, de spécialisation ?
Oui, ce qui était assez logique de toute façon, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez plus des masses considérables d'objets à produire, il vaut mieux effectivement concentrer votre outil industriel. Donc Cherbourg, effectivement, s'est spécialisé dans les sous-marins. Lorient s'est spécialisé dans les bâtiments de combat de, comment dire, frégates, corvettes, donc des bateaux de combat qui sont importants, mais qui ne sont pas non plus de taille très importante, comme les porte-avions, les ravitailleurs, les porte-hélicoptères. Ça, à l'origine, c'était le travail de Brest. Et puis, en fait, après la fin de la construction du Charles de Gaulle et ensuite, dans les années 2000, les deux des trois porte-hélicoptères amphibies de la classe Mistral qui ont été co-réalisés entre Brest et les chantiers de l'Atlantique. En fait, il n'y avait plus assez de travail pour maintenir un outil de production à Brest, et comme il y avait les chantiers de l'Atlantique qui étaient quand même dans l'Ouest également et qui avaient des capacités industrielles bien plus importantes, avec des outillages beaucoup plus modernes, avec des cales beaucoup plus grandes, eh bien il a été décidé finalement d'un commun accord à la fin des années 2000 que tous les bateaux de plus de 8000 tonnes de la Marine nationale seraient dorénavant réalisés aux chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Donc le cas pour le successeur du Charles de Gaulle, le porte-avions de nouvelle génération qui sortira en 2038. C'est déjà le cas aujourd'hui pour 4 nouveaux bâtiments ravitailleurs de force. Le premier a été livré à l'été 2023. Le deuxième commencera justement demain ses essais en mer. Il quittera Saint-Nazaire et il partira vers Toulon, sa base, cet été. Et 2 autres suivront jusqu'au début des années 2030. Voilà, donc il y a vraiment une répartition en France. Et aujourd'hui, cette répartition, elle est aussi déclinée sur des plus petits navires. On va en reparler évidemment de manière plus détaillée de Cherbourg. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Le naval militaire en France fait non seulement vivre Naval Group et aujourd'hui les chantiers de l'Atlantique, mais aussi beaucoup de moyens et petits chantiers navals. Je pense à Piriou en Bretagne, par exemple, qui a son chantier à Concarneau et qui a également un autre chantier en collaboration avec Naval Group à côté de Lorient, à la Nestère. Mais c'est aussi Saucarenham qui a des chantiers à Saint-Malo, à Boulogne-sur-Mer, à Calais. Et puis, d'autres chantiers peuvent travailler aussi pour les services de l'État ou pour la marine, comme le petit chantier Gléenne à Douarnenez, un acteur qui est très peu connu. Alors, dans la navale, oui, il est connu parce que c'est un ancien chantier, mais à la base, c'était un chantier qui faisait notamment des bateaux de pêche et qui, grâce aux militaires, justement, a aussi pu passer ces dernières années des périodes très compliquées sur la pêche et continuer à survivre. Vous avez Océa en Vendée également, qui fait des bateaux militaires beaucoup à l'export et puis quelques navires également pour la douane française. Donc, vous voyez, c'est assez éclaté finalement, et cette activité de construction navale et cette spécialisation, justement, cette rationalisation en fonction des compétences, des capacités industrielles de chacun et de l'optimisation de l'outil, parce qu'évidemment, il sert à rien d'avoir un très gros chantier pour faire des vedettes ou des petits bateaux. Ça veut pas dire que c'est pas technique, hein, attention. Mais évidemment, qu'un chantier de sous-marin, on le voit difficilement faire des remorqueurs. On va plutôt choisir. Donc on peut répartir la charge, on peut répartir les programmes pour faire à la fois bénéficier de très gros acteurs et également de plus petits.
Et de fait, on parle de spécialisation en ce qui concerne Cherbourg, Vincent Groiselot, mais à Cherbourg, on ne fabrique pas que des sous-marins. Il y a aussi, il faut le mentionner, aussi la fabrication de bâtiments plus petits qui sont moins spécifiques. On va revenir sur ces spécificités-là, mais voilà, il y a aussi de la place pour d'autres types de bâtiments, comme des patrouilleurs, vous le mentionnez, et des bâtiments de soutien, voilà, dans des chantiers qui sont un peu plus petits, mais également situés à Cherbourg. Amiral Jean-Louis Lauzier, une question, alors c'est facile de réécrire l'histoire, mais c'est peut-être aussi pour mieux comprendre la spécificité inhérente à la construction, à l'assemblage de ces fameux sous-marins. Est-ce qu'on aurait pu décider, par exemple, de se dire, bon bah voilà, c'est trop coûteux de faire différence trop de sites d'assemblage en France, on va tout simplement décider de construire les sous-marins à Saint-Nazaire, puisqu'on a déjà les infrastructures et potentiellement les compétences en place, ou est-ce que justement la construction de sous-marins est tellement spécifique qu'il vaut mieux l'écarter du reste des autres bâtiments? Est-ce que notamment pour des enjeux de stratégie et des enjeux très militaires, on a préféré isoler toute la construction des sous-marins à Cherbourg? Est-ce que ça répondait aussi à ces enjeux-là?
Oui, il y a clairement une spécificité à la construction de sous-marins. Construire un sous-marin, vous devez, par exemple, tout simplement, commencer par prendre une tôle de plusieurs centimètres d'épaisseur qui, au départ, est plane. Et puis ensuite, vous devez l'arquer pour en faire un cylindre et ensuite la souder. On voit bien que ce n'est pas le type d'outillage que vous allez avoir dans un chantier, je dirais, standard, même s'il est très spécialisé et très compétent, comme le sont les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Donc il faut bien, effectivement, des spécificités. Pour assembler un ensemble propulsif comprenant une chaufferie nucléaire, bien évidemment, là encore, il faut des dispositifs particuliers.
On a bien compris l'aspect technique, on va dire, qui implique de fait l'aspect très géographique. On a mentionné un acteur sur lequel il faut revenir, Jean-Louis Lauzier, c'est Naval Group. Alors, il y a une histoire très dense et très étendue aussi de ce groupe-là, qui, on l'a dit, a un lien très particulier aussi avec l'État. Aujourd'hui, l'État est actionnaire majoritaire de Naval Group à hauteur d'un peu plus de 62%. Très concrètement, est-ce que c'est Naval Group qui gère l'intégralité de la construction des sous-marins qui ont lieu à Cherbourg? Et si oui, est-ce que c'est aussi ce groupe-là qui impulse la stratégie en tant que telle? Comment les liens finalement avec l'État, avec la défense sont-ils négociés?
Alors, cette organisation nous permet de remonter, je dirais, un peu aux origines du programme nucléaire français. La France avait décidé, dans les années 50, de lancer un premier programme de sous-marins à propulsion nucléaire. Ce programme s'est appelé le Q-244. Et en fait, ça a été un échec. Le programme a été lancé en 1954, arrêté en 1957, parce qu'on s'était rendu compte que la technologie choisie d'installer un réacteur à uranium naturel et avec ce qu'on appelle en termes très techniques comme modérateur de l'eau lourde, ben en fait, tout cela était trop lourd pour mettre à bord d'un sous-marin. Et donc, globalement, au bout de 3 ans, on s'est rendu compte qu'on allait à un échec. Mais surtout, l'analyse a montré qu'on n'avait pas trouvé la bonne organisation. Et je crois que c'est vraiment l'atout majeur aujourd'hui de la France de posséder une organisation qui a fait ses preuves depuis le début des années 60. Cette organisation, c'est quoi? Ça a été d'abord la création de la délégation ministérielle de l'armement, devenue depuis la DGA, Direction Générale de l'Armement, qui permettait d'unifier l'ensemble des services des armées, notamment ceux de la marine, avec un objectif premier, construire les outils de la dissuasion. Deuxième point d'organisation, ça a été la même année en 1961, la répartition très précise des tâches à réaliser entre les armées et leurs services, et donc entre la direction ministérielle de l'armement, et le commissariat à l'énergie atomique. Et ça a été ce qu'on a appelé, et qu'on appelle toujours, l'œuvre commune, qui est une organisation qui permet de dire très exactement qui est responsable de quoi, que ce soit pour réaliser les armements nucléaires ou que ce soit pour réaliser les bâtiments militaires à propulsion nucléaire. Et puis enfin, troisième point d'organisation fondamental, ça a été la création dès 1962 au sein de la délégation ministérielle de l'armement d'une organisation spécifique pour construire les SNLE et qui a été l'organisation CELACANT. Et finalement, aujourd'hui, ces trois piliers de l'organisation continuent d'exister. Quand bien même, d'un point de vue industriel, il y a eu des évolutions, tant du côté du commissariat à l'énergie atomique, qui n'a plus de fonction industrielle sauf pour les armes, que du point de vue des constructions navales, où là encore, comme l'a rappelé Vincent Groiselot, autrefois les chantiers navals étaient partie de l'État, alors que maintenant c'est bien une société de droit privé.
Avec un fonctionnement qui, effectivement, fait l'actionnaire majoritaire, mais pas le seul et l'unique. Ce qui me permet de faire un point très important et à la fois technique, mais en même temps fondamental pour continuer cette émission, amiral Jean-Louis Lozier, pour bien comprendre aussi comment offre et demande s'articulent sur ce marché très spécifique des sous-marins. Il faut entrer donc dans ces fameux détails techniques et identifier le type de sous-marin qui est ainsi construit à Cherbourg. Il faut distinguer les sous-marins dits conventionnels, des sous-marins d'attaque conventionnels ou à propulsion nucléaire, et des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les fameux SNLE. Ces trois catégories correspondent à des usages et donc à des besoins bien différents. Qu'est-ce qui les distingue fondamentalement, Jean-Louis Lozier?
Alors, vous avez effectivement une différenciation entre les sous-marins d'attaque, qu'ils soient ce qu'on appelle à propulsion conventionnelle ou à propulsion nucléaire, et d'autre part, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors, je vais commencer par les sous-marins d'attaque. Donc, la fonction de ces sous-marins, c'est effectivement un emploi guerrier tel qu'on a pu le connaître globalement à grosse maille, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire pouvoir aller attaquer des autres bateaux, pouvoir aller faire des missions de renseignement, pouvoir faire éventuellement des opérations de débarquement de forces spéciales le long des côtes. Voilà, toutes sortes d'actions qui sont faites, je dirais, depuis l'origine de l'existence de ce type de sous-marin et qui continuent aujourd'hui. Ce qui différencie un sous-marin conventionnel d'un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est bien le type de propulsion. Le sous-marin conventionnel est propulsé par un moteur électrique alimenté par une batterie. Batterie qu'il faut bien évidemment de temps en temps recharger. C'est exactement comme la batterie de notre téléphone à une autre échelle.
À quelle échéance d'ailleurs ? Pardon ? À quelle échéance cette nécessité de recharge ?
Eh bien, tout dépend finalement de la vitesse à laquelle vous déchargez votre batterie. Donc, ça peut être au bout de 5-6 heures si effectivement vous allez très vite. Hein. Ça peut être au bout d'une journée ou voire maintenant avec certains dispositifs de 3-4 jours. Hein. Mais à condition de rester à des vitesses faibles et donc de peu consommer. Et puis, le sous-marin d'attaque est vraiment devenu un vrai sous-marin qui n'avait plus à devoir revenir régulièrement près de la surface pour recharger ses batteries, puisque justement, pour recharger les batteries, il fallait lancer un diesel, hein, et donc à remonter près de la surface, sortir un tube d'air qui permettait effectivement d'alimenter le diesel en air, etc. Et donc, c'était évidemment moments de grande vulnérabilité, puisque un avion équipé d'un radar pouvait facilement vous trouver. Alors qu'avec l'arrivée du sous-marin de la propulsion nucléaire, hein, qui était un rêve, je dirais, qui a commencé en 1939, en fait. Tant en France qu'aux États-Unis, d'ailleurs, les premières réflexions sur, une fois que l'on a mis en évidence la possibilité de fusionner un atome d'uranium et de produire ainsi de l'énergie, tout de suite, on a eu l'idée de que peut-être cela pourrait servir à la propulsion de sous-marins. Bon, ce sont les Américains, bien évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont pu effectivement réaliser ce rêve, avec un premier sous-marin nucléaire d'attaque qui a fonctionné avec une propulsion nucléaire dès 1955 et qui était l'USS Nautilus. Pour la France, il lui a fallu effectivement d'avoir un sous-marin nucléaire d'attaque. Nous avons attendu le début des années 80, puisque, en fait, en attendant, la France a réalisé un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le redoutable. Alors, c'est quoi un sous-marin nucléaire lanceur d'engins? Eh bien, c'est donc un sous-marin, voilà, mais qui va lancer des missiles balistiques. Et sa fonction unique, c'est finalement la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire faire peser une menace de rétorsion sur tout agresseur étatique qui voudrait s'en prendre à nos intérêts vitaux.
Et on voit là, de fait, la façon dont une forme de stratégie, une stratégie militaire, une stratégie de défense rencontre aussi un enjeu très technique et très industriel aussi de l'organisation de ces chaînes de production. Et on va voir comment cela a évolué aussi au cours de l'histoire en fonction à la fois des avancées technologiques, mais aussi des aléas, on va dire, de la stratégie politique en termes de dissuasion nucléaire et le rôle que les sous-marins peuvent jouer dans cette stratégie-là. Vincent Groiselot, on est là à une forme d'intersection. Il y a à la fois cet enjeu très technique dont on parle à travers ces différents modèles, on va dire, de sous-marins, et un enjeu très politique, mais aussi très, très industriel à travers le groupe Naval Group, dont on parlait à l'instant. On l'a dit, l'État est actionnaire majoritaire, il y a la société Thales qui en détient aussi une partie, à hauteur de 35%. Les autres petits pourcentages disséminés sont détenus par les collaborateurs et anciens collaborateurs de la société et ses filiales, et puis un autre pourcentage par la société Naval Group Actionnariat. Très concrètement, pourquoi on pourrait se dire, voilà, après tout, on comprend à l'instant que les sous-marins sont clairement un outil au service d'une stratégie de dissuasion, d'une stratégie politique stratégique. Pourquoi l'État n'est pas resté actionnaire à 100%? Pourquoi Naval Group, finalement, n'est pas un groupe totalement public?
C'est une question qui a été posée pendant longtemps. L'entreprise ne pouvait pas rester une administration. La bonne et simple raison qu'une entreprise et une administration, ça fait pas bon ménage. Et c'est pour ça qu'en 2003, il y a eu un changement de statut. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, il vous faut de la réactivité. Et quand vous êtes au ministère des Armées, vous pouvez pas vous permettre, si vous avez besoin du jour au lendemain, par exemple, pour réparer un bateau de la marine, de lancer un appel d'offres européen pour commander un moteur. Donc, pour un tout un tas de raisons, et aussi d'efficacité, et puis on va certainement pas se mentir non plus, je pense que l'État à l'époque voulait aussi un petit peu dégraisser la boîte, donc il y a eu effectivement ça qui a été fait, peut-être un peu trop d'ailleurs au début, il a fallu remettre les bouchées doubles dans les années 2000 et début des années 2010 pour récupérer des compétences, heureusement parce qu'elles sont rares, et on a bien vu quelques années plus tard, et notamment chez nos camarades britanniques, que les compétences pouvaient se perdre très rapidement si elles n'étaient pas maintenues et entretenues avec beaucoup de rigueur, surtout dans ces domaines-là où c'est très rare de trouver des spécialistes. L'amiral parlait tout à l'heure de former de la tôle très épaisse qui va supporter les contraintes énormes de la pression sous la mer. Eh bien, jusqu'aux gens qui vont former, qui ont la compétence de former ces tôles-là, eh bien, il y en a une poignée en France et c'est des années et des années de formation de gens qui se forment, qui apprennent avec leur père pour les jeunes pendant des années avant de le faire eux-mêmes. Et pour la soudure, c'est pareil. C'est pas de la soudure classique, c'est une soudure très complexe. Voilà. Donc, en tout cas, l'État, effectivement, pour donner plus d'agilité à cette entreprise et lui a redonné un statut de société de droit privé. Et ensuite, Thalès est rentré au capital parce que bon, c'est une question politique aussi et également industrielle. À cette époque-là, il y avait des concurrences entre Thalès, qui était déjà une entreprise privée, et Naval Group, qui était à l'époque donc DCN puis DCNS. Et donc, ils étaient concurrents sur des appels d'offres étrangers. C'était une époque où les marchés n'étaient pas non plus extrêmement nombreux. On était dans les années 2000, post-guerre froide. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de personnes qui se posaient la question de l'utilité de la dissuasion nucléaire. Et 20 ans plus tard, un petit peu l'évolution qu'il y a eu. Et donc, on s'est dit, c'est un peu stupide de faire de la concurrence franco-française. Il faut rapprocher ces deux entités, notamment uniquement sur ce qu'on appelle les systèmes de combat. Donc c'est le cerveau, le cœur électronique d'un bâtiment qui va gérer et l'armement et les capteurs. Et là, il y avait une vraie concurrence franco-française parce que Naval Group avait son système, Thales avait son système, et c'était des batailles un petit peu stériles sur des marchés export qui pouvaient de temps en temps d'ailleurs se traduire par la victoire d'un compétiteur étranger, puisque les Français s'étaient tellement bien battus entre eux que finalement aucun d'eux n'emportait l'affaire. Voilà, donc il y a aussi cette dimension-là, et je crois qu'aujourd'hui, personne ne s'en plaint, parce que finalement, l'entreprise peut répondre à ses exigences d'entreprise, à sa stratégie, savoir où investir, comment, bien sûr, en lien avec l'État qui est son actionnaire principal, mais sans les lourdeurs, quelque part, de l'État. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui une entreprise qui sait aussi investir dans d'autres domaines que lui demande pas forcément l'État. Si vous êtes encore dépendant totalement de l'État, vous ne faites que des programmes pour l'État, que sous la direction de l'État. Là, vous pouvez vous dire, bah non, moi je suis désolé, en ingénierie, l'État aujourd'hui n'a pas les moyens de commander des drones, mais moi j'ai envie d'en faire, j'ai envie de me développer là-dessus, donc je vais dépenser de l'argent pour pouvoir m'acquérir des compétences, faire des démonstrateurs en matière de drones de surface, de drones sous-marins, etc. Et ensuite, eh ben, je pourrai les vendre à l'export. Et quand l'État aura les moyens et se réveillera, j'aurai déjà travaillé, je pourrai donc fournir plus vite. Donc, quelque part, c'est une organisation qui est assez intéressante et assez intelligente parce que à la fois, l'entreprise se doit de répondre aux exigences, notamment en termes de dissuasion nucléaire, bien sûr, de l'État, et donc supportée par l'État pour maintenir ses compétences, pour innover, pour rester au meilleur niveau technologique. Et en même temps, là, cette latitude d'indépendance d'entreprise qui peut lui faire faire des choix, voilà, encore une fois, sur des ruptures technologiques en termes d'intelligence artificielle, sans que l'État lui en fasse la demande, mais dont l'État peut ensuite en bénéficier.
Aujourd'hui, Vincent Groiselot, Naval Group est un employeur, si j'en reviens à Cherbourg, qui est notre lieu de l'écho aujourd'hui, Naval Group est un employeur majeur pour la ville.
Ah oui, complètement. C'est-à-dire que le chantier de Cherbourg, aujourd'hui, ça fait travailler plus de 5000 personnes, dont 3300 collaborateurs directs de Naval Group. Et ça va monter encore dans les années qui viennent. Il y a des centaines de personnes qui sont recrutées chaque année, non seulement pour remplacer ceux qui partent en retraite, mais aussi pour accroître les capacités. Parce que aujourd'hui, le chantier travaille sur la fin d'un programme de nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque pour la marine nationale, le programme Barracuda. 3 aujourd'hui ont été livrés, 3 restent à construire et à livrer d'ici 2030. Et puis, l'année dernière, le chantier a découpé la première tôle, c'était il y a un an, du premier des 4 nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français qui seront appelés à succéder à partir de la deuxième moitié des années 2030 aux 4 actuels SNLE qui, eux, sont rentrés en service entre 1997 et 2010. Et ça, c'est une charge de travail qui est considérable. C'est 15 millions d'heures de travail en études et c'est plus de 80 millions d'heures de travail en fabrication, en construction. Non seulement pour Cherbourg. Je suis désolé, je suis un petit peu long.
Il faut rentrer.
Voilà, on prend le temps, on profite de ces émissions justement, on a un petit peu le temps de parler. Non, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de Cherbourg, c'est tout le pays ou tous les territoires du pays qui participent à la construction de ces outils stratégiques.
Oui, parce que là, il faut bien le préciser, et c'est très important, Vincent Groiselot, il faut bien préciser, et c'est une spécificité aussi de cette industrie-là, c'est une industrie extrêmement souveraine, c'est-à-dire que toutes les pièces détachées, on a parlé d'assemblage à Cherbourg, mais toutes les pièces détachées viennent également de France, et ça, et d'où l'essaimage du territoire.
Oui, tout à fait. Alors, je sais pas jusqu'au moindre boulon, si effectivement, il y en a peut-être quelques boulons allemands, sans doute. Non, effectivement, trêve de plaisanterie, vous avez totalement raison. L'essentiel des équipements et l'ensemble de tous les systèmes critiques, y compris l'acier, sont fabriqués en France. Et donc, typiquement, à côté de Nantes, il y a un site de Naval Group qui s'appelle Indrette et qui est spécialisé, lui aussi, parce que Naval Group a spécialisé ses chantiers non seulement dans la production de coques, mais également dans les équipements. Nantes, c'est la propulsion depuis très longtemps. Et donc, ce site de Nantes fabrique les blocs moteurs, fabrique les chaufferies nucléaires de ces sous-marins qui partent ensuite par barge jusqu'à Cherbourg. Mais les tubes lance-torpilles sont par exemple fabriqués en Charente. Les sonars, qui sont des sonars de Thalès, sont fabriqués entre la région de Nice et Brest. Les tubes de missiles sont fabriqués plutôt dans la région Rhône-Alpes. Les missiles eux-mêmes sont fabriqués par Ariane Espace dans plusieurs de ces sites en France. Donc, vous voyez, c'est pas seulement Cherbourg qui assemble le sous-marin, qui le construit physiquement, qui intègre ses équipements, qui aménage son intérieur, mais c'est aussi tout un tas d'équipements qui viennent de partout en France et qui donc ont aussi un impact énorme dans les territoires. Indrette, à côté de Nantes, c'est 2000 emplois plus ses sous-traitants. C'est le troisième plus grand employeur du département de la Loire-Atlantique. Donc après les chantiers de l'Atlantique et Airbus. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui rayonne bien au-delà de Cherbourg.
Amiral Jean-Louis Lozier, cette fabrication quasiment, on va dire quasiment, ou alors 99,9% française, est-ce que c'est lié à la possibilité de le faire? Tout simplement, on a en France cette expertise à disséminer sur tout le territoire, ou est-ce lié aussi à des enjeux de sécurité, de stratégie militaire? Dans quelle mesure ces deux impératifs finalement se sont réunis à travers l'industrie du sous-marin? Est-ce un choix ou une contrainte en fait finalement ce 100% français?
C'est très clairement un choix politique qui a été permis par la politique insufflée dès le début des années 60 par le général de Gaulle pour avoir une dissuasion nucléaire indépendante. Et de fait, quand on compare effectivement ce que nous sommes capables de faire de façon souveraine par rapport à ce que font nos amis britanniques, ben effectivement, je préfère de ce point de vue-là être français.
Et de fait, vous me faites une transition, vous me fournissez une transition parfaite. Vous parliez des années 60 et de l'impulsion effectivement du général de Gaulle. Et de fait, en 1967, le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Redoutable, est mis à l'eau.
Mercredi 29 mars, à 10h38, était lancé à l'arsenal de Cherbourg le premier sous-marin nucléaire français lanceur d'engins, le Redoutable, qui se trouve être le plus grand du monde, puisque le Lafayette, submersible américain, ne jauge que 8250 tonnes. La différence de poids ne lui confère d'ailleurs aucun avantage particulier. Jamais, l'arsenal de Cherbourg, pourtant spécialisé dans la construction maritime, n'avait construit et surtout lancé un tel bâtiment. Plus lourd que le croiseur Colbert, que les premiers cuirassés type La Gloire, le Redoutable pèsera 9000 tonnes pour 128 mètres de long sur 10,60 de large.
Le lancement du sous-marin le Redoutable est un grand événement pour Cherbourg, pour la Marine nationale et pour la France. Pour Cherbourg, parce que la construction de ce bâtiment et sa mise à flot sont des exploits techniques sans précédent dans cet arsenal et dans ce port. Pour la Marine nationale, parce que la naissance du premier bâtiment français à propulsion nucléaire marque une étape majeure dans la réalisation de moyens navals puissants et modernes. Pour la France, parce que cette entreprise, qui a exigé beaucoup d'efforts, témoigne de remarquables capacités scientifiques, industrielles, militaires et ouvre la voie à de nouveaux progrès.
Voilà la voix du ministre des Armées, Pierre Messmer, qui s'exprimait donc le 29 mars 1967, date de cette mise à l'eau du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Redoutable. Amiral Jean-Louis Lozier, pour bien comprendre encore une fois comment se structurent ces relations entre industrie et gouvernement et stratégie militaire, lorsque sont lancés ces programmes que vous avez évoqués un peu plus tôt dans l'émission, lorsque sont lancés ces programmes-là, à la fois très technologiques, très techniques, mais aussi très économiques, dans le sens où il restructure un paysage industriel, est-ce que cela remporte l'adhésion? Est-ce qu'on sait faire en France ça plutôt bien, de voir une commande gérée plus ou moins par l'État et une offre qui lui répond, gérée par des groupes industriels? C'est un mécanisme bien rodé à ce moment-là?
Alors, il y a un dialogue, je dirais, permanent entre les services de l'État. Donc d'une part l'état-major des armées, la DGA et le commissariat à l'énergie atomique d'une part, et de l'autre côté les industriels. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un nouveau programme comme celui du SNLE de troisième génération, on se pose d'abord la question de se dire que veut-on faire. Et on s'est d'ailleurs posé la question dans les années 2000 de se dire finalement pour remplacer les SNLE de type de deuxième génération comme le Triomphant, est-ce que c'est un SNLE qu'il faut? On s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas des idées disruptives, etc., bon, qui ont toutes été éliminées les unes après les autres, puisque finalement, les analyses, les études technico-opérationnelles que l'on pouvait faire nous montraient que, a priori, dans les décennies, jusque dans les années 2060, 70, 2080, parce que c'est à ce niveau-là
qu'il faut raisonner,
eh bien, le sous-marin conserverait une invulnérabilité, parce que regarder dans l'eau, ça reste détecté dans l'eau, reste quelque chose d'extrêmement difficile. Et ce qu'on constate, c'est que visiblement, les autres grands pays nucléaires lancent également des programmes de renouvellement de leur flotte de SNLE. Donc, on se pose d'abord cette question. Et puis ensuite, on se dit, oui, mais que veut-on mettre à bord? C'est-à-dire, en termes de missiles, finalement, quel type de missiles va-t-on mettre? Et surtout, avec quelle portée? Et ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire finalement les têtes nucléaires, le nombre de têtes que l'on veut faire. Et donc finalement, on fait des itérations, on regarde des options, et puis on va voir l'industriel qui fait des avant-projets, et puis l'État essaye de chiffrer combien ça peut faire, et puis on retourne vers le président de la République qui dit « bon, telle option, bah écoutez, non, toc », et puis on affine petit à petit et on converge vers une option qui va donner lieu à une demande de l'État vers l'industriel pour dire, bah écoutez, dessinez-moi un SNLE qui ait telle et telle caractéristique, qui puisse effectivement, globalement, lancer ce type de missile de ayant telle masse, qui puisse aller à telle profondeur, qui ne fasse pas de bruit, hein, ou qui fasse encore moins de bruit que la génération précédente. C'est ce type de demande que l'on fait. Et l'industriel, lui, va mettre ses bureaux d'études au travail, et il va y avoir un dialogue permanent, puisque bien évidemment, il faut trouver l'optimum dans tous les domaines.
Vous dites dans un rapport que vous avez co-dirigé, enfin co-écrit avec Héloïse Fayet, qu'en 1974, le département de propulsion nucléaire est rattaché à la Société Technique Atome. C'est plutôt dans ce sens-là que se font les choses. Ce sont plutôt des départements, on va dire plutôt rattachés à l'État, qui s'intègrent finalement à des entreprises industrielles. C'est comme ça que ça se structure dans les années 70. C'est un peu le schéma de pensée à l'époque.
Oui, sauf que à l'époque, effectivement, Technicatome était partie de l'État,
de fait,
de CEA Industrie, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'envisagerait pas effectivement qu'un service, que la maîtrise d'ouvrage s'intègre à la maîtrise d'œuvre. C'est bien la maîtrise d'ouvrage qui représente l'État et qui passe la commande auprès de la maîtrise d'œuvre.
Amiral Jean-Louis Lozier, vous avez évoqué le fait qu'on repense finalement la conception même des sous-marins en fonction de différents critères, la discrétion, la portée des missiles, etc. Donc ça, c'est le comment, c'est le pourquoi faire, mais on pourrait aussi se demander pour qui, et là il faut faire un point très important, dans quelle mesure ces fameux sous-marins fabriqués à Cherbourg s'exportent-ils? On parle de marché, on parle d'offres et de demandes. Il faut savoir d'où vient cette demande. Est-ce que c'est uniquement l'État français ou est-ce qu'on a le droit, et je vous pose la question, mais est-ce qu'on a le droit d'exporter les sous-marins fabriqués en France?
Alors, il est évident qu'on ne va pas exporter de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Là, il y a très clairement le traité de non-prolifération nucléaire qui interdit d'exporter des armements nucléaires mettant en œuvre des armes nucléaires. Dans l'absolu, on pourrait exporter des sous-marins nucléaires d'attaque. D'ailleurs, dans les années 80, on avait envisagé d'exporter notre première génération de SNA, les types Ruby, au Canada. Bon, et puis le Canada avait finalement décidé de ne pas poursuivre. Il y avait plus ou moins un accord entre les pays possédant ce type de navire de ne pas en exporter. Et les premiers à être à l'origine de cette politique étaient les Américains. Les premiers à la rompre ont été les Américains avec le contrat AUKUS, qui a fait du mal à la France et à Naval Group. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, dans l'absolu, l'export de sous-marins nucléaires d'attaque n'est pas interdit. Cela étant, il faut être extrêmement prudent, puisque lorsqu'on exporte ce type de technologie, qui est quand même très pointu, que vraiment très peu de pays aujourd'hui maîtrisent, il faut absolument bien être sûr de maîtriser les conséquences à long terme. En revanche, l'export de sous-marins conventionnels, ça oui. Et effectivement, Naval Group le fait, et Naval Group a actuellement un certain nombre de programmes d'export de sous-marins classiques, qui sont soit des sous-marins construits à Cherbourg, soit des sous-marins construits dans le pays d'achat.
Grâce à des transferts
transferts de technologie.
Vincent Groiselot, Naval Group le fait. Naval Group en a besoin aussi de ses exportations pour survivre économiquement.
Oui, complètement. Surtout quand on a des périodes de vaches maigres, ce qui a été le cas quand même, disons, les 20 dernières années, en tout cas à partir des années 2000. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de noter... Pour ces sous-marins, comme pour d'ailleurs les bâtiments de surface, La dimension nucléaire de la dissuasion, qu'elle se joue au niveau des sous-marins, qu'elle se joue au niveau du porte-avions, oblige, technologiquement parlant, opérationnellement parlant, à être à un niveau extrêmement élevé, être au meilleur niveau, avoir les sous-marins les plus discrets, avoir les sonars les plus performants, avoir des missiles qui sont, entre guillemets, invulnérables, qui peuvent contourner des contre-mesures. Donc ça tire en fait toute une industrie vers le haut, et inévitablement, en fait, cette qualité, ces compétences des ingénieurs, des gens qui fabriquent, des techniciens, des ouvriers, et des équipements qui sont produits, c'est aussi un atout formidable pour l'export, parce que si on n'exporte pas effectivement de sous-marins nucléaires, comme le dit l'amiral. En revanche, effectivement, Naval Group développe des sous-marins conventionnels, y compris des fois, comme c'est le cas avec le dernier de nos sous-marins nucléaires d'attaque, une version à propulsion conventionnelle de ce bâtiment qui a été vendu à 4 exemplaires aux Pays-Bas et qui seront construits à Cherbourg. D'ailleurs, petite parenthèse, pour éviter justement les fuites de secrets, pour bien ségréguer les choses, Naval Group va construire une nouvelle nef de construction sur son site de Cherbourg pour construire ses sous-marins à l'export et donc pour commencer les sous-marins néerlandais. Mais on a également vendu des sous-marins, alors là, du type Scorpène, un peu plus petits sous-marins d'attaque, au Chili, à la Malaisie, au Brésil, en Inde, qui sont faits effectivement, comme le disait l'amiral, soit à Cherbourg, soit beaucoup maintenant en transfert de technologie, c'est-à-dire qu'effectivement on va aider les pays qui ont évidemment pour des programmes aussi coûteux, un peu envie d'avoir des retombées économiques et en termes d'emploi chez eux. Donc on va les aider à concevoir un chantier par exemple, à le construire et ensuite à réaliser ces sous-marins. On accueille à Cherbourg des soudeurs par exemple, brésiliens, il y a quelques années, qui sont venus se former. C'est très rare d'avoir des étrangers qui puissent pénétrer dans un chantier comme ça. Et donc ils sont venus se former auprès des équipes de Naval Group. Puis ensuite, quand ils ont été qualifiés, ils sont repartis au Brésil, toujours encadrés par des équipes de Naval Group, et quand ils sont devenus autonomes, et bien c'est eux qui sont devenus les encadrants, qui ont accueilli des jeunes Brésiliens, qui sont venus à l'école de soudure, qui ont appris à souder des coques, etc. Et aujourd'hui, et bien le Brésil a déjà réalisé 3 des 4 sous-marins qui ont été commandés en 2009 du type Scorpène, et a aujourd'hui un très bel outil industriel, qui est un petit Cherbourg d'ailleurs, c'est assez étonnant, un petit Cherbourg en zone tropicale, on va dire ça comme ça, et qui est voilà, où on a, et c'est intéressant parce que vous avez aussi quelque part, ces programmes-là d'armement, c'est aussi une manière de renforcer des liens entre pays. Ça va être une manière de driver de l'économie aussi, de renforcer des liens diplomatiques, des liens stratégiques, et aussi des liens économiques, des liens culturels, et aussi des liens académiques. Parce que vous avez du coup des échanges également entre les universités, entre des écoles d'ingénieurs. Donc c'est quelque chose qui est assez vaste, et effectivement donc qui est fondamental pour l'industrie française, même si probablement dans les années qui viennent, elle va avoir fort à faire avec le renforcement des capacités militaires nationales, mais quand même, l'export lui aussi est en pleine progression. On parle aujourd'hui, à l'international, d'une dizaine de marchés de sous-marins actifs. C'est du jamais vu. Donc c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de pays qui veulent lancer des programmes de sous-marins en dehors des pays, je veux dire, où il n'y a pas de compétition possible, hein, comme la Russie, les États-Unis, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, il y a effectivement non seulement des perspectives importantes sur le plan national, mais également considérables sur le plan étranger.
Alors on va en venir justement aux circonstances très particulières qui sont les nôtres. Aujourd'hui, on le voit, Cherbourg incarne une partie de l'histoire de la propulsion nucléaire navale, une histoire à la fois militaire, industrielle et technologique, où les enjeux de souveraineté sont cruciaux et où la France parvient à se démarquer nettement de la concurrence. Alors est-ce nécessaire, est-ce suffisant pour s'imposer sur le marché très spécifique du sous-marin? On en parle juste après, forcément, un extrait de la bande originale des Parapluies de Cherbourg, conçue par Michel Legrand.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Cherbourg, symbole de l'industrie militaire, est notre lieu de l'écho aujourd'hui. Et c'est là que sont assemblés de fait les sous-marins français, où l'enjeu de souveraineté est à la fois stratégique et économique. Et nous sommes toujours en compagnie de Vincent Groiselot, rédacteur en chef de Mer et Marine, et de l'amiral Jean-Louis Lozier, conseiller du Centre des études de sécurité de l'IFRI et ancien officier de marine. Des sous-marins donc qui ne se produisent pas à la chaîne, hein. On comprend, parce qu'on le disait, ils correspondent à une politique et une stratégie militaire très spécifique, mais aussi à des contraintes techniques, technologiques tout aussi spécifiques. C'est ce qu'explique Nicolas, ingénieur de quart sur le sous-marin nucléaire Le Terrible, dans un reportage du Média Brut paru le 21 février dernier.
La fonction d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est d'assurer la dissuasion nucléaire. Donc c'est l'unique mission de ce type de sous-marin. C'est d'être en permanence à la mer depuis plus de 50 ans maintenant, capable de tirer des missiles nucléaires sur ordre du président de la République. Il n'y a que quelques personnes à bord qui connaissent exactement la position du sous-marin. Donc la grande majorité de l'équipage ne la connaît pas. Et même à terre, personne ne connaît, même le président de la République, la position du sous-marin. Ça permet de garantir son invulnérabilité, de garantir la dissuasion, la posture de dissuasion à la mer. Donc là, on est devant la soute missile. Donc on va retrouver ici 8 tubes lance-missiles. Donc pour les 8 missiles de l'avant, on va retrouver la même chose à l'arrière, pour un total de 16 missiles à bord. C'est vraiment comme une fusée aérienne qu'à l'intérieur, qui va permettre de propulser le missile à l'extérieur du sous-marin sous l'eau, jusqu'à sortir de l'atmosphère pour libérer ces têtes nucléaires. Un missile fait à peu près 12 mètres de haut et 50 tonnes, à peu près comme un Charles Leclerc. Voilà, donc là on est au poste de conduite propulsion. Donc c'est d'ici qu'on dirige la centrale nucléaire qui est juste devant nous et la machine avec la propulsion vapeur qui est derrière nous. Toute l'énergie dont on a besoin pour faire tourner les turbines qui sont derrière nous vient de la vapeur qui est produite à partir du réacteur nucléaire qui est devant nous. Donc c'est comme une centrale EDF, avec la réaction de fission, on vient produire de l'énergie qui nous fait chauffer de l'eau. On obtient de la vapeur et la vapeur nous fait tourner des turbines derrière pour faire assurer la propulsion du sous-marin et la production d'électricité.
Amiral Jean-Louis Lozier, on l'entendait, la construction de sous-marins et les bâtiments que sont les sous-marins en soi sont des objets technologiques très avancés et qui demandent une certaine maîtrise aussi de la part du personnel qui s'y trouve, mais aussi du personnel qui va le construire. Est-ce que la constitution de l'industrie navale et à plus forte raison des sous-marins à propulsion nucléaire passe aussi par la formation d'un personnel compétent? C'est une nécessité qui est identifiée très tôt dans l'histoire que vous avez commencé à retracer aussi. C'est la formation, le facteur ressources humaines, on va dire, est identifié comme un facteur aussi déterminant pour l'industrie navale de ce point de vue-là?
Oui, il était déterminant pour une marine, il est déterminant pour une industrie navale. D'ailleurs, puisqu'on parle de Cherbourg, une bonne partie des sous-mariniers reçoit une formation spécifique, et la formation dans le domaine nucléaire, à Cherbourg, à l'école des applications militaires de l'énergie atomique, appelée couramment l'école ATO, qui est à Cherbourg. Et donc, ce qui permet souvent déjà de créer des liens entre les jeunes sous-mariniers et les constructeurs de sous-marins. Et effectivement, dans le domaine de la construction des sous-marins, des sous-marins, on en a déjà un peu parlé, il faut vraiment des spécificités très précises. Et effectivement, le domaine de la chaudronnerie, du soudage, sont des choses extrêmement compliquées qui nécessitent une formation particulière.
Vincent Groiselot, est-ce que la construction navale et a fortiori celle de sous-marins est un secteur particulièrement attractif?
Oui, c'est assez attractif parce que la mer est attractive. Elle est de plus en plus attractive en France, dans un pays qui, quand même, on va le reconnaître, est assez terrien, depuis Napoléon notamment. Mais on redécouvre effectivement cette dimension maritime. On a de très beaux fleurons, très très beaux fleurons industriels, civils comme militaires, hein, parce qu'encore une fois, les deux industries travaillent ensemble. Voilà, y compris sur Cherbourg, vous avez Naval Group, et puis vous avez le chantier CMN aussi à côté, qui fait du militaire, mais pas que. Donc il y a beaucoup de choses à s'apporter. Oui, voilà, c'est quelque chose de très important, comme le disait l'amiral, les compétences aussi extrêmement importantes, tant en ingénierie qu'en technicien, qu'en ouvrier également qualifié. Hein, c'est pas que de la technologie. Oui, la technologie est là, oui, elle est de plus en plus importante, mais que ce soit un équipage de bâtiment de la Marine nationale ou que ce soit les ouvriers qui sont... ou les techniciens ou les ingénieurs qui sont dans un chantier naval, eh bien oui, la technologie est un appui, mais on ne va pas encore les remplacer. Je pense que ça, c'est un mirage encore, en tout cas pour quelques années. On ne pourra pas faire du tout automatique, en tout cas pas tout de suite. Donc c'est vraiment vraiment important. Et oui, ça attire, parce que je pense que de manière générale, le militaire aujourd'hui attire. On a vu quand même ces dernières semaines quelque chose d'assez étonnant, c'est tous ces jeunes qui commençaient à se renseigner sur la réserve, et de moins jeunes aussi d'ailleurs, parce qu'on est dans un contexte géostratégique très compliqué, avec des menaces qui sont réelles, qui sont là depuis un moment, qu'on n'a pas voulu voir, qui se précisent aujourd'hui, donc les gens commencent à prendre conscience. Et puis le maritime aussi, c'est de se dire, bah en fait, l'Europe est une île au milieu du monde, et des océans un petit peu partout. Prenons la Russie, bah notre première frontière à la Russie, tout le monde pense à l'Est. Non, notre première frontière avec la Russie, c'est la mer en Europe. Et notamment nous, Français, effectivement, nous avons des sous-marins russes qui sont en Atlantique devant nos côtes et qui constituent finalement la menace la plus immédiate pour nous.
Et puis, voilà, et puis donc... Vincent Groiselot, on pourrait aussi se dire qu'une immense majorité du commerce passe par des voies maritimes, oui. C'est plus de 80%. Les sous-marins peuvent-ils servir aussi à cela, à sécuriser ces trajets-là?
Ah mais c'est l'enjeu des forces navales, c'est de le premier en dehors de la dissuasion nucléaire, la première mission des forces navales, c'est de garantir la liberté de navigation et notamment de protéger les approvisionnements du pays, puisque oui, effectivement 90% des approvisionnements, non seulement des hydrocarbures, des matières premières, mais aussi tous les biens de consommation qu'on peut trouver dans nos magasins viennent par des porte-conteneurs, par des vraquiers, par des pétroliers, et ces lignes maritimes là, évidemment en cas de conflit, ce sera les premières attaquées pour asphyxier économiquement un pays. Donc oui, il faut les défendre, et puis la mer aussi, c'est des ressources naturelles dont on va avoir beaucoup besoin. Ce sont, faut pas l'oublier, des câbles sous-marins de télécommunication également qui sont essentiels pour l'internet et qu'il faut aujourd'hui protéger parce qu'il y a des menaces aussi sur ces infrastructures sous-marines critiques. Voilà, et c'est l'éolien en mer aussi, c'est des énergies renouvelables qu'il va falloir développer et qui sont aussi potentiellement des cibles pour un adversaire.
Jean-Louis Lozier, on parlait justement de l'idée d'un marché qui va s'étendre, notamment en raison des tensions très récentes et aussi des appels au réarmement et notamment de l'Europe. Est-ce que vous pensez véritablement que cette situation peut changer le marché du sous-marin, pour le dire ainsi? Est-ce qu'il y aura un avant et un après cet appel au réarmement?
Alors, je dirais que déjà avant même l'appel au réarmement, on constate que Naval Group a un carnet de commandes qui est plein. Déjà pour les besoins français, le renouvellement des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est une opération qui a été lancée au début des années 2010.
On retrouve là la très longue temporalité.
Après, la question qui se pose, faudra-t-il aller au-delà de 4 SNLE? La question peut se poser. C'est pas à moi d'y apporter une réponse. Pareil pour le nombre de sous-marins nucléaires d'attaque, mais on sait qu'il y a actuellement des réflexions au sein du gouvernement, et donc je ne peux évidemment pas préempter des annonces éventuelles.
Vincent Groiselot, nous sommes ici, entendez-vous l'écho, et je trouvais intéressant aussi de faire ce lien sur ce qui fait la valeur de fait d'un sous-marin, au-delà de l'usage effectif dont on vient de parler, de dissuasion, mais aussi de protection de certaines routes maritimes. Il faut insister sur ce point-là. La valeur d'un sous-marin, ce n'est pas uniquement sa valeur marchande, c'est aussi une valeur stratégique. Dans quelle mesure tout ce qu'on vient d'évoquer, à savoir le complexe industriel ou militaire, la souveraineté industrielle qui caractérise cette industrie, offre de fait une place singulière à la France dans le paysage de la défense européenne? Et est-ce que c'est cela qui justifie finalement tous les investissements au sein de cette industrie?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, plus personne peut nier qu'effectivement, ce côté très français qui voulait défendre son industrie, sa souveraineté, qui était présenté souvent comme suranné, voire même un peu moqué, notamment par nos amis européens. Bon, bah aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on a eu assez raison. L'histoire, en tout cas, nous a donné raison. Elle aurait pu nous donner tort, mais oui, c'est très important, effectivement, d'avoir encore ces capacités, parce que c'est des capacités qui nous permettent de décider, qui nous permettent d'agir, qui nous permettent de nous défendre en toute autonomie, et qui permettent aussi de vendre à l'export, à nos alliés notamment, des produits dont ils vont pouvoir avoir aussi toute une autonomie, que ce soit des sous-marins, des frégates, mais aussi les rafales de Dassault Aviation, c'est pareil. On a beaucoup parlé du F-35. Bon, si les Américains, demain, il n'y a pas de bouton pour arrêter l'avion, mais bon, très rapidement, en termes de maintenance, disons que le pays client, si les États-Unis veulent pas qu'ils s'en servent, ça va poser problème dans quelques semaines ou quelques mois. Bon, bah voilà, le Rafale, effectivement, est un avion qui est apprécié aussi pour ça, parce que il peut, effectivement, être utilisé par des clients export en toute souveraineté, tout comme les sous-marins conventionnels qu'on vend, tout comme les frégates également que l'on vend. Donc oui, aujourd'hui, il y a un savoir-faire français, il y a une efficacité aussi des systèmes, voilà, qui sont des bateaux, mais aussi de l'armement. Je pense aux missiles, à MBDA, entreprise européenne d'ailleurs, avec une grosse part française, missiles anti-navires, les exocètes, les fameux exocètes, des missiles anti-aériens, l'Aster, ça aujourd'hui aussi c'est très reconnu et apprécié, et c'est donc sur le plan marchand, commercial et de l'emploi, extrêmement bon pour l'économie française.
Et de fait, la concurrence est particulièrement complexe vis-à-vis de la France, puisque nous l'avons dit, nous bénéficions de tout un tas d'atouts et les autres constructeurs de sous-marins à propulsion, les fameux SNLE, les autres constructeurs, donc les États-Unis, la Russie, la France, enfin le Royaume-Uni aussi, et puis les SNLE indiens ou chinois ont peut-être plus de mal à maintenir cette concurrence. Merci infiniment à tous les deux, amiral Jean-Louis Lozier et Vincent Groiselot, d'avoir participé à cette émission.